partir de 20h.
France Inter.
La différence.
15h et bientôt 4 minutes. C'est l'heure, bien sûr, de là-bas si j'y suis. Daniel Mermet.
Oui, Daniel, bonjour. Il faut répondre aux auditeurs qui te posent une question. Est-ce que ton émission est bien reconduite au mois de septembre? Et ce qu'il a décrit pourrait même penser que tu puisses récupérer ton créneau de 17h. Bah oui, maintenant qu'on a changé de gouvernement, puis bah, je te souhaite bon courage et puis on espère t'écouter à nouveau à la rentrée, effectivement. Ah oui, j'oubliais la clé pour que ça passe sur le répondeur. C'est Régis de Nîmes. Salut.
Petite information de l'expulsion de la CGT de la Bourse du Travail de Nice. Monsieur Extrosi renie ses engagements signés par une convention en 2009 qui prévoyait la réintégration de la CGT à la Bourse du Travail après sa rénovation. Suite à l'appel du 18 juin, la CGT a décidé de réintégrer ses locaux en travaux. Depuis le 18 juin, les militants occupent donc place Saint-François à Nice, la Bourse du Travail en chantier, car le conseil municipal du 25 juin a adopté la création d'un musée de la ville de Nice dans ses locaux. Aujourd'hui, la CGT est bien entendu assignée pour occupation illégale. Monsieur Estroni, tenez vos engagements. La CGT doit réintégrer la bourse du travail attribuée pour services rendus à la nation. Ça, c'est l'histoire.
Ouais, Daniel, ben, ça va être dur, 2 mois sans émission, ça va être très long, très très long. Bon, on peut toujours se rattraper en écoutant les émissions sur Internet, mais bon, ça vaut pas le jour le jour. En attendant, je voudrais signaler quand même qu'il y a une manifestation dans nos deux petits villages de Heck et Euringhem contre l'implantation d'une porcherie industrielle de 4500 porcs. Donc nous sommes des petits villages, nous avons du mal à mobiliser du monde, forcément, puisque c'est des petits villages. Donc c'est Heck et Euringhem à côté de Saint-Omer. Nous ne voulons pas de cette porcherie industrielle qui va polluer l'eau, bien sûr. Et puis cette eau qui est chez nous s'en va dans les villes avoisinantes à 50 km à la ronde. Vous pouvez contacter Eve sur le site. Alors www.eves.fr.
Bonjour, Colette Delbecq, Paris 20e. Je voulais vous remercier pour l'année passée ensemble. Ça a été formidable. J'espère qu'on se retrouve l'année prochaine. Merci, au revoir.
Ce que c'est, il y a des moustiques, voilà. Je viens d'en décroiser.
Salut Daniel, salut à tous. Les soldes, oui, on nous en parle beaucoup en ce moment. Mais on oublie de parler des soldes de nos naissances. La naissance de nos enfants. En 1975, la France comptait 1379 maternités. À ce jour, elle en compte moins de 540. Et la liste des maternités sur la sellette ne fait que s'allonger. Parmi elles, la maternité de Vire, dans le Calvados, qui compte près de 500 naissances par an. Service de proximité qui revendique des pratiques de soins respectueuses des choix des couples. Mais pour combien de temps encore? La politique de l'ARS, Agence Régionale de la Santé, est de continuer à regrouper les naissances dans les énormes pôles hospitaliers, ces vraies usines à bébés, à réduire le personnel de façon drastique et à fermer les centres de proximité. Dans quelques jours, l'ARS statuera sur le sort de notre maternité, en décidant ou non de renouveler l'activité pour les 5 prochaines années. Aussi, le collectif Touche pas à ma santé, touche pas à mon hosto organise une grande manifestation pour défendre le maintien des naissances dans notre bocage normand. Rendez-vous samedi 30 juin, demain, devant la porte de l'horloge de Vire, à 10h30. Venez nombreux, merci.
Salut Daniel, Étienne de Poitiers. Voilà, je t'appelle simplement, c'est pour te remercier, enfin vous remercier, toi et ton équipe, pour vos reportages qui sont dignes de vrais journalistes. C'est tout. Salut.
Bonjour, petit sujet d'actualité, c'est le cas de le dire, sujet. J'appelle tous les auditeurs qu'ils peuvent à se procurer le sujet d'histoire-géographie du diplôme national du brevet des collèges tombé ce matin. C'est vraiment un sujet rédigé sous la droite, hein, ça fait un petit peu page d'histoire. Outre une photo sur une demi-page de Nicolas Sarkozy entouré de bidas, il n'y a rien que moins qu'un article du Figaro dans le sujet de géographie qui nous vante la puissance de l'Europe et de son modèle économique. Bah, tout ça paraît un petit peu fragile, j'espère que ça n'a pas trop dérouté les élèves. Voilà, mais bon, hein, sujet sous la droite, maintenant ça y est, c'est bon. Il faudra passer à autre chose l'année prochaine, je sais pas, des extraits de l'Humanité, des photos du Jaurès, voilà. Et puis, pour la radio, pareil, hein, notre super Alain Bédoué, l'anti-micro-trottoir, le gars qui donne vraiment de l'intelligence aux auditeurs, s'en va et il va beaucoup nous manquer. Mais bon, peut-être qu'à la rentrée, c'est pareil. Hein, les grilles de rentrée, comme les sujets du brevet, vont être des grilles de gauche. Et puis qu'on va peut-être enlever certaines anciennes têtes qui font partie de l'histoire. Voilà, gros bisous, bonnes vacances.
Alors ça y est, on passe à la grille d'été. Plus de là-bas si j'y suis avant septembre. Plus de flight number two. Et plus de bip. Salut Marie-Paul de Villejuif. Bye bye Régis de Nîmes. Et pour moi, terminer l'attente, souvent récompensée, merci, de m'entendre causer dans le poste, comme dit Pierre, mon vétérinaire. J'aurais pas pensé qu'il écoutait là-bas. Eh bien, si. Ça fait quelque chose d'être tous les deux des AMG. Vivement septembre, c'est Christine du Limousin.
C'était évidemment le plus joli, celui-là, le dernier des messages, mais tous nous ont beaucoup touchés. Impossible de diffuser tous les messages que nous avons reçus pour cette dernière de là-bas si j'y suis de cette saison. Oui, nous avons appris hier soir que l'émission continuait à la rentrée. Merci pour cet auditeur qui salue Alain Bédouet, qui donna de l'intelligence aux auditeurs, c'est bien vrai, et j'espère qu'on aura ce compliment aussi lorsque nous arrêterons, ce qui n'est pas pour demain, la veille. Et pour cette dernière de là-bas si j'y suis, eh bien, on a pensé que ce serait sympa de faire un petit tour en prison. Ouais, on va vous offrir un petit tour en prison, une prison un petit peu particulière. Les journalistes qui arrivent à l'improviste y sont bienvenus, les gardiens sont souriants, les détenus sont détendus. Alors, on peut remarquer que tous portent la barbe, ont le crâne plutôt glabre et tous s'alignent rigoureusement à l'heure de la prière. Et c'est Fatih qui a la barbe la plus longue. Fatih, c'est le directeur. Si on lui met sa casquette militaire avec la visière en avant, il ressemble assez à Fidel Castro. Et s'il tourne la casquette visière en arrière, il a un petit air de Ben Laden. On est à Misrata, on est en Libye, on fait ce petit tour en prison et c'est jusqu'à 16h sur France Inter. Dans la basse, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous. Alors, il paraît qu'à partir du 1er juillet, outre la pseudo-augmentation du SMIC, mais on sera obligé d'avoir un éthylomètre dans la voiture, c'est-à-dire qu'un éthylotest dans la voiture. Eh ben, nous, on prend une décision, c'est qu'il faut que chaque personne ait un pot de pistou dans la voiture. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas un pot de pistou dans la voiture, vous risquez une amende de 9 euros. Pour ça, sinon, on se retrouve tout à l'heure chez Pascal pour le repère de Tourette, le dernier de l'année. Passe des belles vacances, Daniel. Régale-toi bien. Bise, régalez-vous. Ciao, vive. Portez-vous bien.
Heidi, ça se bouscule aujourd'hui pour le dernier répondeur de la saison. Allez, on tente notre chance. Et oui, le 7 de chaque mois, à 7h du soir, c'est le repère de Nancy. Rendez-vous ce samedi 7 juillet et aussi le mardi 7 août au bar Le Molitor à Nancy. Alors, les vacances, ce sera sujet libre. 4 sujets proposés par les participants, avec une demi-heure de développement pour chaque thème. Et voilà, bonnes vacances à tous. Ciao.
Salut Daniel. C'est Arnaud de Montpellier. Je suis commercial, je t'écoute tous les jours. Et avant les vacances, j'avais envie de vous lire un petit poème du poète syrien Adonis, qui s'appelle La Route. La route est une femme qui a mis la main du voyageur dans celle de l'amant, a rempli la paume de l'amant de nostalgie et de coquillage, une femme, un rêve qu'une femme a transformé en barque étroite comme l'aile, revêtue de la rose des vents, oublieuse de son port. Voilà, bonne route à tous pour ces vacances, et merci pour les émissions. Salut.
Bonjour les AMG de Nevers, le prochain Café Repère de Nevers aura lieu le jeudi prochain, le 5 juillet à 20h, au bar Les Copains d'Abord, 5 rue Saint-Didier à Nevers, près du marché Carnot. Je vous y attends avec Claude. Merci.
Bonjour les amis de là-bas si j'y suis, la communauté Emmaüs de l'Escarpeau et le Sarcophage vous donnent rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet à côté de Pau pour le premier forum mondial de la pauvreté, pour dire merde aux enrichis et faire la fête avec les compagnons, les ex-taulards, les naufragés du système. 3 jours de débat avec Jean Ziegler, Samir Amin, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le centre Europe tiers-monde, le centre tricontinental et beaucoup d'autres. Et pour la première fois en France, Alberto Acosta, le père équatorien du mouvement du Buen Bibir, l'initiateur du projet Yasuni. Le matin, on pense, l'après-midi, on fait la sieste et on visite le village associatif. Et le soir et la nuit, on fait la fête avec 30 000 personnes venu pour dire oui à la dignité des pauvres, pour donner un peu plus d'imagination à notre président normal, dont la première normalité est de dire qu'il n'y a pas de solution sans croissance économique. Vous pouvez trouver le programme complet de ce 3 jours dans le Sarcophage actuellement en kiosque. On a sorti Sarkozy, on n'en a pas fini avec le sarkozisme, le combat continue, le Sarcophage continue. Salut à toute l'équipe.
Donc voilà, dans les ruines, tout a été soigneusement écrabouillé, émietté, alors on voit tout. Des bouts de tissu, des bouts de papier, des bouts de munitions là, des casseroles, des chaises, un petit carnet de notes là, des carreaux de faïence. C'est marrant, ça, c'est un petit carnet de notes qui traîne par terre. République arabe de Libye, Union socialiste arabe, décision et recommandation du Congrès général du peuple, réunion du Congrès du 4 au 18 janvier 1976. En annonçant l'ère des masses, dans laquelle la place du peuple arabe de Libye sera naturellement à l'avant-garde, et considérant la responsabilité assumée par la grande révolution du 1er septembre, inspiratrice de nos masses, du développement et des objectifs de notre lutte sur cette terre et sur l'ensemble de la terre arabe, notre grand peuple réaffirme, par l'intermédiaire de son congrès général, son engagement total qui surgit de sa libre volonté et de sa profonde prise de conscience des exigences de la phase de transformation de la révolution à l'État. Renouvelant son investiture au chef de la révolution, le colonel Muammar Kadhafi, le peuple arabe considère cette investiture comme la base de ses objectifs, la liberté, l'unité et le socialisme.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Guy Vanctil et Patrick Mzadeh. Libye, l'espoir, le chaos.
Flight number 2, arriving from
Et on est en train de prendre un délicieux café. Délicieux café. Dans cette cellule. Dans cette cellule. Une prison de Misrata. Au milieu de kadhafistes. Ou de supposés kadhafistes. Qui sont emprisonnés là. Il y a des gars de toutes les couleurs, ils ont tous à peu près le même âge, ils sont vachement souriants, vachement sympas, vachement accueillants, ils sont plus de 700 à vivre les uns sur les autres, et ils se démerdent très bien. Et le plus étonnant, c'est leur chef. On nous a reçus ici sans rien nous demander. Porte ouverte, on nous montre tout. Et le chef est un salafiste, barbu, qui est entre Fidel Castro et Oussama Ben Laden comme physique. Il a 35 ans, 35, 40 ans. Et là, il y a une conversation passionnée sur je ne sais quoi. On nous a appris que dans le jeu d'échecs, le roi qui est surmonté d'une croix est une pièce qu'il faut étêter.
C'est haram.
C'est haram. Il faut enlever la croix si on veut jouer aux échecs. Et là, il y a des petits gâteaux, on nous a offert des jus d'orange, de l'eau. Il y a une conversation passionnée, un délicieux moment d'humanité, de discussion, d'intelligence entre des ennemis d'hier, des gars qui sont tombés là par hasard, des mecs qui ont été pris parce qu'ils étaient noirs. Il y a un racisme fou qui règne. Lui, par exemple, qui était employé d'une compagnie aérienne qui faisait du bodybuilding et qui s'est retrouvé là alors qu'il n'a jamais porté les armes de sa vie. Il y a une condition pour être heureux ici. Une seule condition, la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous faire pousser la barbe. Voilà. Alors il faut que vous ayez la barbe, c'est tout ce qu'on vous demande. Que vous soyez blanc, noir, comme vous voulez, démerdez-vous, vous pouvez vous faire pousser la barbe. À partir de là, tout va bien. Combien de temps ça va durer? C'est très étonnant.
Ils sont en train de faire remonter des plaintes, des doléances, en disant que c'est pas normal qu'il n'y ait qu'un seul magasin dans cette prison et qu'ils font la queue plus longtemps que prévu. Et l'autre, il lui dit, bah oui, on n'a qu'un seul magasin, c'est normal qu'il y ait des queues, vous attendiez. Donc en fait, voilà, les gens font... sont en train de faire des doléances directement au chef. Ils ont le temps de leur répondre, ils leur expliquent. On dit, voilà, j'ai pas de place pour faire un autre magasin, sinon je ferai un deuxième magasin. Comme ça, vous ne feriez pas la coupe.
Voilà de comment donner un bon coup à tous les préjugés un peu faciles sur les partisans du monstre Kadhafi d'un côté et le péril islamiste de l'autre. On est en plein de réel et donc c'est forcément plus compliqué que sur le papier.
Oui, au moins quelque chose qu'on aura appris ou vérifié au cours de ce voyage en Libye avec Guive et Patrick, c'est que nos clichés, nos idées reçues, nos grilles de lecture, comme on dit, ne marchent pas ici. Ils fonctionnent vraiment très, très mal. La Libye, c'est un autre monde, pas illisible, pas impénétrable, mais il faut arriver avec... une envie de comprendre, une certaine patience pour décrypter cette société, ce monde, cet univers. On est à Misrata. À Misrata, on a rencontré déjà les Katibas, c'est-à-dire ces milices faites en principe, de ceux qui se sont battus, des révolutionnaires, qui se sont battus, armes à la main, qui ont été parfois blessés et qui s'organisent en autant de milices farouchement crispées pour la défense de la révolution et prêts à se dresser au cas où la contre-révolution s'organiserait et arriverait. Parmi ces milices, il y a des vrais révolutionnaires qui ont vraiment donné leur sang pour leur patrie. Et puis, il y a évidemment, comme toujours, les résistants de la 25e heure, c'est les opportunistes. C'est tout à fait comme dans toutes les après-guerres du monde. Ce qui est moins sympathique parmi ces katibas, parmi ces milices, c'est celles qui se sont organisées en prison et qui détiennent dans des conditions tout à fait arbitraires des ennemis, des adversaires qui sont là, encore une fois, détenus de façon tout à fait arbitraire. Mais bon, la question évidemment de la Libye, vous l'avez, je pense, compris depuis longtemps, mais en tous les cas depuis le début de cette série d'émissions, c'est qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité en l'occurrence militaire ou policière ou de justice capable pour l'instant, je rappelle que les élections c'est le 7 juillet prochain, capable de régler ces questions qui sont pourtant pendantes, qui sont pathétiques dans la mesure où dans un certain nombre de ces prisons tenues par ces milices, il y a des cas assez nombreux de torture, dénoncée par des ONG, dénoncée même par des instances onusiennes, et évidemment on espère trouver des issues, que le CNT trouvera une solution à tout cela le plus rapidement possible. Mais là,
c'est une surprise totale. Nous arrivons dans cette prison qui s'appelle Al-Houda. Je crois que ça veut dire la voie juste. On demande si on pourrait voir éventuellement quelqu'un qui pourrait nous permettre de discuter dans la perspective d'une visite. Et les portes s'ouvrent. On est les bienvenus. Bienvenue les journalistes. On ne nous demande rien du tout. On vient vraiment à l'improviste. Et c'est dans cette étonnante prison que nous allons passer une partie de cette heure de la base si j'y suis. La prison du salafiste jovial. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France. And of course, to make some money with you.
My name is Muhammad. Muhammad, I have a big project. Bienvenue à Paris, Muhammad, je te vends des centrales et des chars. Et comme t'as l'air sympa, je t'offre un hélico, c'est cadeau. Alors là je propose, pour ce geste grandiose, standing ovation, belle leçon commerciale à la face du monde. Alors là je propose, c'est la moindre des choses. Joli geste commercial à la face du monde. I wanna buy, I wanna buy. I wanna buy Château de Versailles. I wanna buy, I wanna buy. My name is Colo, I gotta buy. I wanna buy. I wanna buy. I wanna buy.
Petite mosquée ici pour la prière. On va passer à travers.
On va se mettre un peu à l'ombre là, à la cour de la prison, parce que ça tape dur. Et là, il y a deux pick-up.
Avec des canons anti-aériens qui ont été montés à l'arrière.
Canons anti-aériens impressionnants qui sont fixés à l'arrière, avec le petit siège confortable pour le tireur. Là, voilà. En jugé par les physiques de nos amis Barbiche, et on est chez les frérots. Et là, il dit à ces gars-là comment il faut croiser un chef. On ne croise pas quelqu'un comme ça par la gauche, on les croise par la droite. Il faut leur donner des leçons à ceux-là. Alors chef, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Bismillah, wa salatu wa salam wa sayyidu Muhammad Rasulullah.
Bismillah. Et
au nom de Dieu, le miséricordieux et son prophète Mohammed.
L'ism tabam Fathi Absalam Darrez min Madinat Musrat.
Je m'appelle Fathi Abdesalam Darrez de la ville de
Misrata.
Je suis le directeur de cette organisation qui s'appelle Al-Houda pour la réinsertion. Au début, on était en tant que révolutionnaire donc, à gérer cette organisation. Et maintenant, on est accrédité par le ministère de la Justice.
Combien vous avez de détenus ici ?
724
prisonniers qui ont un rapport direct avec la révolution. Et vous avez 24 délinquants qui sont des Touars, des révolutionnaires.
Révolutionnaires, délinquants. Et sur les 724, c'est qui au juste ?
من ضمنهم المجموعة اللي دخلت لمدينة مصراتة في دبابات وبأسلحة ثقيلة وخفيفة وتوغلوا داخل مصراتة وتم القبض عليهم داخل مصراتة وفي مجموعة منهم شاركت واستطاعت التسلل الهروب والآن جابوها.
La plupart donc c'est des gens qui ont participé directement dans les combats et on a des preuves qu'ils ont utilisé l'artillerie lourde contre la ville et aussi il y a des gens qui se sont retirés dès le début des combats et qu'on a cherché par la suite à Tripoli et à d'autres villes.
Et là, on arrive sur une esplanade qui est couverte par un toit en tôle. Et il y a quoi ? Il y a 500 personnes qui sont installées là.
Ouais, facilement.
Ils ont tous les cheveux très très courts, rasés et la barbe longue.
Ce sont des détenus qui se sont battus dans les rangs
pro-Kadhafi. Voilà. Voilà où nous sommes. On en a visité quand même pas mal des prisons au cours de ces années, là-bas, si j'y suis, au Brésil, en Bolivie, au Venezuela, en Afrique du Sud et à Florimérogis, enfin un peu partout. Il y a quelque chose quand on visite ces prisons, on est toujours évidemment avec des gardiens. Il y a un échange de regards entre les détenus et nous, de regard dans lequel on lit toute l'humiliation de pas pouvoir s'exprimer. Et là, c'est étonnant parce que les gars qui sont là sont tout à fait épanouis. Ils ont des grands sourires épanouis. Ils ont l'air tout à fait bien d'être bien. Voilà, ils sont bien. Alors, il faut comprendre que par rapport aux autres Katibas que je viens d'évoquer, ceux-là sont bien traités et ils sont aussi... C'est un double enfermement. Ils sont évidemment détenus sur des critères qu'on vient d'évoquer. Et ils sont protégés aussi de ceux qui rêvent de vengeance et d'épuration radicale. Donc c'est ça qui explique peut-être l'ambiance sereine qui règne dans cette prison Al-Houda.
Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un office religieux?
Voilà.
Oui. C'est-à-dire que vous leur offrez une réinsertion par la prière, par la religion?
La plupart, c'était des pratiquants, même d'avant la prison. Mais aussi donc, chez nous, donc, celui qui se sent en détresse, il revient rapidement à la prière et à la foi.
Et là, ça va bientôt être l'heure de la prière, c'est ça?
Ils savent quand est-ce qu'ils vont commencer. On va partir dans ce sens et s'arrêter plus loin. Il faut faire attention pour qu'on ne le prenne pas pour un détenu.
Ah la vache, il y a du monde, c'est très très dense.
Beaucoup, beaucoup de monde.
On aperçoit les cellules, c'est des conditions vachement dures, hein. Les gars sont vachement serrés. C'est quand même extraordinaire qu'on nous laisse entrer si facilement.
Je montre qu'il y a, hein. C'est sans maquiller les faits.
Ouais.
Par exemple, regardez l'eau que vous voyez ici. C'est quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir, mais malheureusement, c'est là. Et donc, on ne peut rien cacher à Allah. Au début, donc, on était sur les fronts. On nous a demandé de venir et de protéger les prisonniers. Et on est venu volontairement. Et tout le monde donc aidait partout donc, pour un peu gérer cet établissement. Ensuite, quand on a décidé d'intégrer l'organisme existant, donc l'État, et depuis, donc, on n'a ni salaire, c'est vraiment la catastrophe. Et ce que vous voyez donc, comme petits travaux, c'est vraiment au financement de la ville, quoi.
Et là, ce qu'on voit, c'est de la prière qui commence.
Ce grand hangar, ce grand hangar de tôle, c'est la prière des détenus. Il faut imaginer, sous nos yeux, 500, 600 hommes, presque tous le crâne rasé, ou les cheveux très très courts, tous ou presque portant barbe, calotte parfois, tapis de prière sur l'épaule, dans le plus grand silence, quelques-uns s'avancent blessés, une béquille, là on s'incline, et tous les hommes qui sont là, le dos arrondi par la prière, ont combattu contre les révolutionnaires, c'est-à-dire dans le camp de Kadhafi.
Allahu Akbar.
Voilà, la prière est finie. On reprend notre visite du centre de détention d'anciens soldats kadhafistes.
Ouais. Regarde les cellules. Bon, c'est très très étroit, c'est des dortoirs très très étroits. Les gars sont vachement serrés là-dedans. Comment tu as été arrêté ?
Je me suis livré moi-même à Sirte.
À Sirte, qui était le dernier bastion kadhafiste à tomber.
Tu t'es rendu.
Oui, au mois d'octobre. Je suis originaire de Jmeil, mais je travaillais à Sirte. Et je suis sorti à la porte des 50 km à Sirte pour me livrer.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant ?
Nous attendons la liberté.
Venez-le
en France avec vous. Il était presque mort quand on l'a ramené ici. Il adore Kadhafi.
Tu étais un combattant?
Oui, j'étais combattant, mais pas à Misrata. J'étais à Sirte.
Tu étais à Sirte avec Kadhafi?
Oui, bien sûr.
Tu as tiré contre les révolutionnaires?
Salam, bien sûr.
Oui?
Oui, bien sûr.
Et comment tu te retrouves ici alors?
C'est la volonté de Dieu. On m'a capturé, on m'a ramené ici.
Qu'est-ce que tu attends ici?
J'attends que de libérer tous ces gens que vous voyez ici. Et même moi aussi.
Est-ce que tu vas passer devant un tribunal?
Pas encore.
Comment tu t'appelles?
Grain.
Je m'appelle Grain. Originaire de Saba.
Qu'on dise qui c'est
qui... Le cousin de Kadhafi. Saïd Kadhafi Dam.
Étonnant, le cousin de Kadhafi, il a l'air d'un vieil intellectuel bourgeois, hein, très noble.
C'était un sage de la tribu Kadhafa, quoi. Il était un peu...
Tu vois, il est dans sa cellule, fermé, tout seul.
Alors, comment vous êtes ici?
Everything is okay.
Tout va bien.
Comment vous êtes arrivé ici?
Long time ago.
Ça fait longtemps.
Bon, qu'est-ce que vous espérez maintenant?
Anything.
N'importe quoi.
N'importe quoi. Mais vous avez envie de sortir, non? Ou ça va comme ça ici?
I'm sure of myself. I didn't do anything wrong.
Est-ce que je suis sûr de moi? Je n'ai rien fait de mal.
Mais vous êtes bien traité, visiblement. Vous avez à manger, à boire.
Yes. Everything is okay.
Oui, okay. Tout va bien.
Good luck.
On fait quelques pas en dehors du hangar et tout de suite le volume sonore diminue.
Les deux personnes que vous voyez là-bas, ils vont suivre des cours maintenant dans la madrasa.
Dans l'école coranique. L'islam quoi.
L'islam, de religion et de charia.
D'accord. Donc il y a des cours de formation islamique aussi qui sont prodigués par le gentil directeur de la prison.
Ouais.
L'insertion par l'islam.
Ouais, ouais. C'est la reconversion par la conversion.
Les jeunes prisonniers donc, qui travaillent avec nous, donc, ils logent ici, ils ont aussi leur propre boutique.
C'est ceux qui s'occupent des oiseaux.
Oui, des perruches.
Des petits qui s'occupent des petites perruches, c'est mignon comme tout. C'est vraiment une prison paradisiaque.
Voilà. On dirait Oussama Ben Laden et Mola Omar qui s'occupent de changer les graines des perruches de Madame Michu.
C'est mignon comme tout.
Presque envie de devenir islamiste.
Ben ouais.
Le prix auquel on vend ici les produits alimentaires est moins cher que dehors.
Là, c'est vraiment l'épicerie, quoi. Avec des grands congélateurs et tout un tas de produits. C'est l'épicerie où les détenus peuvent cantiner à des tarifs préférentiels.
Chaque samedi et mercredi, ils ont droit à la visite. Et même leurs petites amies peuvent venir les voir ici. Je suis désolé, mais j'ai traduit.
D'où tu tires ta force, toi, avec ta barbe? Tu ressembles à Fidel Castro, là.
On me l'a dit, ça, avant.
Avec un cigare, tu fais Fidel.
La cigarette est interdite pour toute la présence. C'est très
simple. ضد القذافي ما كناش نملكوا شيء حاجة واحدة يا رب واستزناها انتصرنا عليها المرحلة الآن صعوبتها نفس بداية القتال مع القذافي ما نملكوا شيء إلا يا رب.
Quand on s'est révolté contre Kadhafi, on n'avait rien et on disait souvent Dieu nous aide. Et maintenant donc on commence une deuxième étape et toujours donc avec le peu qu'on a et la prière.
فوجدناه مطابق
Au début, donc, on a procédé avec la charia pour gérer l'établissement parce qu'on n'avait pas une connaissance dans les règlements carcéraux internationaux. On a resté 4 mois comme ça et quand on commençait à vraiment se référer à ces lois, on a trouvé que c'était la même chose.
Alors Fatih, le directeur, nous fait visiter... la prison. Il nous fait visiter notamment l'infirmerie où il y a une salle de chirurgie pour des petites opérations. Et là, on apprend que Médecins Sans Frontières était présent dans cette prison jusqu'à il y a peu de temps et a décidé de suspendre ses activités là et dans les centres de détention de Misrata. Pourquoi ? Parce que les gens de Médecins Sans Frontières sont aperçus qu'on leur apporte, qu'on leur amenait des gens blessés, de façon à ce qu'ils les soignent, ce qu'ils faisaient bien évidemment. Et ils se sont aperçus qu'ensuite, ces gens remis sur pied étaient ramenés, où ça, dans des centres de détention sauvage, pour être torturés à nouveau. En fait, c'était des gens qui étaient torturés, qu'on leur ramenait pour les remettre sur pied, et qu'on ramenait ensuite pour poursuivre les tortures. Ça n'a pas plu Médecins Sans Frontières, qui a décidé donc de poursuivre ses activités. Ça donne une idée des tensions et de la férocité ambiante, sauf dans cette prison de Alura, avec cet étonnant directeur Fatih.
Bon, alors... Il faut que tu nous racontes comment toi tu es arrivé là, Fidel Castro. Est-ce que toi tu as combattu ?
J'ai combattu jusqu'au 20 mai. À la libération de Misrata, je suis venu tenir la prison. Vous savez qu'à Misrata, tout le monde veut exterminer ces gens-là. Et nous, on les a défendus avec force. Bien sûr, donc, cette défense, c'est pas par amour à ces gens-là. Non, c'est pour la justice. Et donc, on doit les protéger.
Est-ce que c'est ta conviction religieuse qui conduit ton comportement vis-à-vis des détenus ici dans cette prison? D'où tu tires ce comportement?
Salafi, cher Ali.
Je suis salafiste.
C'est ça, un salafiste, mais on connaît que les salafistes étaient très méchants et très dangereux.
Mais il ne sait pas salafi. Et c'est ce qu'il dit aux salafistes, qui disent que nous sommes salafistes,
Vous parlez des salafistes qui disent que nous sommes des salafistes djihadistes. Nous ne sommes pas comme ça.
بالنسبة للمعاملة الاستمداد تاع المعاملة هذه من المنهج السلفي يعني من الدين الإسلامي الصحيح.
Pour ce que vous voyez comme traitement, on le puise dans la doctrine salafiste et dans la religion islamique juste.
فجاوبونا الناس اللي متعلمة قالوا كان عندما يكون في مأمن يعني لما يقبض عليه ما عاش في شر منه كان النبي ما يكلش يوكله هو.
Les ulamas, donc les savants de l'islam, nous ont répondu que quand le prisonnier est pacifié, donc il n'y a plus de danger de ce prisonnier, le prophète ne mangeait pas avant qu'il nourrisse son prisonnier.
كانت الرحمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم على الحيوان قبل أن تكون على الإنسان يعني رحيم بالعباد.
Le prophète était miséricordieux même pour les animaux.
وفي قاعدة ما شبهها عندما أنت تكون على صواب على حق
Quand tu es juste, c'est Dieu
qui te prête main forte.
Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois l'islam. Je suis islamiste. C'est pas marrant. Les épithètes, je lui coupe la tête. Je l'arrache la langue de ta grammaire. Et je l'écrase par terre avec mes tongs. L'orthographe, je l'ai mis 12 baffes avec le couteau. Je l'ai coupé les mots à petits morceaux comme on a fait les carpaccios. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. Et c'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. Et c'est pas Coran. Je sais pas lire. J'ai pas à écrire. Les baraboules, j'en ai ras-le-bol. Les métaphores, je les prends la voiture et je les roule sur le corps. Je vais aller brûler toutes les écoles avec un briquet. Je vais aller niquer tous ces marioles. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas marrant. Victor Hugo. Émile Zola. Jaboul Sartre, Sha'ar, Baudelaire, c'est des islamistes aussi, à leur manière. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas haram. Je suis islamiste. Je crois à l'islam. Je suis islamiste. C'est pas Coran.
Ah, on est à Bani Wali, là. Il fait une chaleur, 40, plus de 40 degrés, sur un rond-point. La ville est complètement immobile, parce qu'il fait très chaud et que c'est l'heure de la sieste. Sauf ici, au milieu de la place, un peu entre la place et le terrain vague. Et là, ce qu'on entend, c'est une conversation entre des jeunes de la ville de Bani Wali, avec des moins jeunes qui sont là. Il y a une conversation très animée, il fait vachement chaud à l'ombre de cet arbre. Et ça discute dur sur la loyauté, les loyalistes. Ici, c'est une ville qui est restée loyale à Kadhafi, et qui, à l'approche des élections, oscille entre refus des élections, parce que les élections ont été imposées par l'OTAN, et c'est l'OTAN qui a viré Kadhafi, alors qu'au temps de Kadhafi, tout allait bien, et on avait la paix, la sécurité, etc., et la prospérité. Et ceux qui disent, oui, mais quand même, les élections, enfin, ça hésite. Mais là, il y a un truc que tu as remarqué, qui est assez formidable. Il y a un petit arbre sous lequel tout le monde essaye de se mettre à l'ombre, mais qui est beaucoup trop petit pour donner de l'ombre à tout le monde. C'est l'écorce de l'arbre. Et l'écorce de l'arbre est arrachée. Quand on regarde les morceaux d'écorce qui sont au sol, on voit que c'est des morceaux d'écorce vert, noir et probablement rouge aussi.
Sous tes pieds, là, rouge.
Rouge, c'est sous mes pieds. C'est les trois couleurs de la Révolution. Donc quelqu'un avait peint l'écorce de cet arbre aux trois couleurs et quelqu'un a arraché très récemment l'écorce. Donc le tronc est à nu, quoi. C'est un peu la conversation qui est là. C'est le tronc à nu. Alors, ou bien cet arbre va crever parce qu'il n'a plus d'écorce, ou bien il va se fabriquer une nouvelle écorce. Voilà, on peut symboliser ce qui se passe là comme ça.
On est tous des milices de Kadhafi.
Après ça, vous êtes des milices de Kadhafi ou pas ?
Non.
Ce qu'on veut, nous, c'est construire un État solide et avoir vraiment un État.
Est-ce que vous regrettez le temps de Kadhafi ? C'est ce que je voudrais comprendre.
Oui, oui.
Voilà, vous vous préparez à quoi ? Jusqu'où vous êtes prêt à aller là ? Vous êtes jeune ?
Bani Walid est maintenant une poudrière. Mais et le jour où Bani Walid bougera, il va avoir beaucoup de dégâts, même dans le monde entier. Bani Walid, c'est une des plus grandes tribus de la Libye et elle n'acceptera jamais le déshonneur.
C'est Warfala. Warfala.
Warfal, Warfala. Qui est Bani Walid Warfal.
Oui, c'est la même chose. Quand on dit Bani Walid, ça veut dire Warfala.
Et cette tribu n'acceptera jamais le déshonneur. Et il faut savoir que c'est la plus grande tribu,
de la Libye.
C'est la tienne?
Non, Bani Warshafan. Je suis Warshafan.
Et donc, vous êtes amis ou pas? Vous êtes cousin?
En même, frère.
Bon, bah, on te laisse.
Au revoir.
Voilà, on quitte la Libye sur ces images entre, vraiment entre le chaos et l'espoir, l'espoir qui réside en partie dans ces élections du 7 juillet prochain. Merci à toutes et à tous. Merci à Cher Fatih et ses joyeux détenus, à Patrick Mzadeh, Nir El Azabi, Karim Nabata, notre traducteur, Bachir Al-Ghadi, l'autre traducteur, Abla Junaidi de RFI, Ali, le chauffeur, Omar Moubarak, Jérémy Haslam. Et merci au service, ah oui, de l'ambassade de France de Tripoli, en espérant qu'ils arrivent maintenant à faire marcher leur standard téléphonique. Le beau service est un petit peu abusif parce qu'ils n'ont pas beaucoup aidé du rendu de service, mais on a été reçus à la porte par un gendarme très aimable qui nous a effectivement indiqué que le standard téléphonique ne fonctionnait pas, mais qui nous préviendrait ce qui a été oublié, ce qui n'est pas si grave, mais qui méritait sans doute d'être mentionné. C'était une suite de reportages avec Guy Vanctil et Patrick Mzadeh, au montage Antoine Chao et Grégory Salomonovitch. Je rappelle le bouquin de Patrick Mzadeh, La Libye de Kadhafi, et ses différents papiers, surtout celui de ce mois-ci, dans le diplo de juillet, scrutin sur le fond, sur fond de chaos, scrutin libyen sur fond de chaos. Puis on va finir cette saison, on avait envie de nous faire écouter des tas de choses, bien évidemment, comme toujours, mais on s'est finalement centré sur un document qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre, mais qui était un petit peu l'une de nos découvertes de cette année, dans la série qu'on avait consacrée au Front Populaire, et c'est un document que je vous propose de réécouter qui date du 20 janvier 1930. La voix est celle de Jean Loris qui s'adresse aux hommes de l'an 2000, donc en 1930. C'était un document, vous allez voir, étonnant. Il était le fondateur, en 1929, de la Voix des Nôtres, et il espérait, par le disque, qui était une innovation toute récente à cette époque-là, eh bien, répandre la bonne parole, l'émancipation des autres et l'épanouissement de chacun. Écoutez ce document extraordinaire.
Allô? Allô, l'an 2000? Allô, ici 20 janvier 1931, premier anniversaire de la Voix des Nôtres. La Voix des Nôtres, oui, ces petites galettes noires et plates, ce coffret à manivelle que vous avez déniché dans le bahut de votre grand-père, c'est la Voix des Nôtres. Pour vous, une pièce de musée. Pour nous, une forme vivante de propagande et d'action dont à un siècle de distance, nos disques vous apportent l'écho. Certes, vous êtes mieux outillés que nous, vous autres de l'an 2000. Par avion, vous faites le tour de la Terre en quelques jours, en quelques heures peut-être. Et sans même qu'il soit besoin de vous déplacer, vous participez à des congrès mondiaux qui sont visibles et audibles de partout et qui pourtant ne siègent nulle part. Un bouton sur lequel vous appuyez et vous entendez, vous voyez vos camarades de Chine ou d'Amérique comme s'ils étaient à quelques mètres de vous. D'un geste, vous demandez la parole au président qui de Stockholm, de Madagascar ou de Saïgon dirige les débats, et vous voici dans l'instant même à une tribune qui retentit dans le monde entier. Ah, je comprends que disposant de tels moyens scientifiques, les hommes du 21e siècle considèrent comme déçués et périmés nos disques, nos machines parlantes, notre TSF. Croyez-moi pourtant, camarades de l'an 2000, le 20 janvier 1930 est une date dans l'histoire du socialisme militant. La date d'un remords avant tout. Car si nous y avions pensé 20 ans plus tôt, nous aurions enregistré la voix de nos grands maîtres, celle de Jaurès, celle de Gaïde, de Vaillant, de Samba et de tant d'autres qui chantent encore dans nos mémoires, mais que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas entendu et que vous, de demain, vous n'entendrez jamais. Remords cruels et que souligne l'anniversaire de la voix des nôtres. Anniversaire, malgré tout, d'une initiative féconde. 20 janvier 1930, les premiers disques de La Voix des Nôtres font leur apparition. Immédiatement, par tout le pays, les bons militants, leurs phonos d'une main, leurs mallettes à disques de l'autre, s'en vont de faubourg en faubourg, de village en village, de maison en maison, faire entendre les comprimés de propagande qui éveillent les consciences, éclairent les esprits et préparent l'action libératrice. Camarades de demain, suivez-les un peu par la pensée, vos camarades d'aujourd'hui. Le chômage et la misère frappent périodiquement à leur porte. La guerre les a meurtris dans leur chair et dans leur cœur. Ils savent que sur la route de la liberté, de la paix, de la justice sociale, les étapes sont dures et rudes. Pour qui œuvrent-ils donc avec tant d'ardeur? Avec tant de dévouement, pour eux, non, pour le parti, pour l'avenir du socialisme, pour que vous, vous puissiez réaliser pleinement le rêve que nous avons rêvé. Ah, si vos savants, camarades de l'an 2000, si vos savants pouvaient nous faire entendre les nôtres de demain, comme nous vous faisons entendre les nôtres d'aujourd'hui, ou alors dites-nous, et ce sera notre plus douce récompense, dites-nous bien vite, c'est fait, la République sociale est proclamée, plus de lutte de classe, nous avons aboli les classes, la misère n'est plus, le travail est souverain, la guerre est morte, les peuples ont déclaré la paix et le rouge drapeau de l'international, claque joyeusement au vent d'un bout du monde à l'autre bout. Il nous semble déjà vous entendre, messager des temps futurs, et c'est d'un cœur unanime et plein d'allégresse que nous vous répondons. Hommes de l'an 2000, le socialisme militant salue le socialisme triomphant.
Oui, ça aura quand même été le tube de cette saison ou dans les émissions de là-bas si j'y suis. Merci à tous de nous avoir suivis tout au cours de cette saison et de nous être fidèles et de nous avoir permis de battre cette année un record d'audience puisque vous êtes plus de 600 000 à écouter là-bas si j'y suis chaque jour. Je rappelle que quand on a été placé, relégué à 15h en 2006, l'audience était de 150 000. Vous êtes maintenant 600 000 et de cela, nous vous remercions. Nous vous remercions absolument pour tout. Et vous, le répondeur de là-bas, si j'y suis, sera ouvert au cours de l'été, ce qui fera probablement la matière de la première émission à la rentrée prochaine. Merci à tous, merci à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, qui vous salue bien bas. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon et Sandrine Laurent, Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission et cette année d'émission, assistée de Marina Touyez. Et Grégory Salomonovitch va rester tout l'été auprès du répondeur de là-bas, si j'y suis, dans l'attente de vos messages au 01 56 40
37 37.
France Inter, partenaire du Festival Paris Cinéma du 29 juin au 10 juillet. Plus de 200 films et événements dans 14 lieux parisiens en présence de nombreux invités. Une compétition internationale, des avant-premières, des rétrospectives autour de Jonito, Olivia Sayas, Léo Scarrax, Raoul Ruiz. Un panorama du cinéma hongkongais et les grands rendez-vous annuels du festival comme la brocante du cinéma et le ciné-karaoké géant au 104. Retrouvez le festival Paris Cinéma dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Demain et jusqu'au 26 juillet,
prenez le large avec le Tour de France à la voile.
28 jours d'épreuves, 8 étapes, avec un grand village et ses animations.
Une course unique réunissant professionnels et amateurs.
Dès demain, jour du grand départ à Dunkerque,
suivez l'aventure de ces 200 marins sur toutes les étapes jusqu'à la Seyne-sur-Mer. Dieppe,
Saint-Calais-Guildo,
Roscoff,
Talmont-Saint-Hilaire,
Rosès en Espagne
ou encore Gruissant.
Aventure, défi, esprit d'équipe.
Jusqu'au 26 juillet,
c'est le Tour de France à la voile 2012.
Plus d'infos sur tourvoile.fr.
Voilà, et puis naturellement, restez à l'écoute de France Inter tout au cours de l'été. Vous découvrirez les programmes à partir de lundi matin et également sur France Culture. Généralement, vous avez sur France Culture d'excellents programmes pour l'été. Voilà notre dernier message. C'est un message d'un auditeur qui nous avait adressé ça aujourd'hui, avec lequel nous avons voulu finir cette saison. Bel été à tous. On se retrouve donc au mois de septembre. Je vous laisse pour les infos avec Manuel Ruffet. Salut!
Bonjour, tous heureux ce matin, y compris les bourses européennes qui réagissent bien à l'accord négocié jusqu'au petit matin entre les dirigeants de l'Union européenne. Même Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est déclarée satisfaite des compromis trouvés. Le président français s'est réjoui des effets heureux déjà de ces mesures. Le pacte pour la croissance va consister à injecter 120 milliards d'euros dans des projets dits d'avenir pour relancer l'économie et tenter d'endiguer la crise. Et par ailleurs, ce que réclamaient en particulier l'Espagne et l'Italie, les fonds de secours européens pourront servir à recapitaliser directement les banques. Ces pays craignaient que les plans de sauvegarde, les plans de sauvetage de leurs banques nationales n'alourdissent leur dette publique au point de la rendre insoutenable. L'État français, quant à lui, va réduire son train de vie et plusieurs ministères se serrer la ceinture pour tenter d'améliorer les finances publiques. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a adressé hier ce qu'on appelle les lettres de recadrage à l'ensemble des ministères. Sont épargnés, comme prévu, l'éducation, la police, la gendarmerie et la justice. En revanche, pour tous les autres, il s'agira de réduire les effectifs de 2,5% tous les ans et les dépenses de 7% l'an prochain, 4% les années suivantes. Et Claude Bartolone, le nouveau président PS de l'Assemblée nationale, montre l'exemple. Il a décidé de baisser son indemnité de 30%, une décision identique à celle déjà prise par le président du Sénat et dans cette même proportion de 30%. Une opération policière étonnante qui illustre surtout le manque criant de places en crèche. Hier, à Marseille, la police a fait fermer une crèche clandestine et placé en garde à vue ses deux responsables. La structure totalement illégale accueillait jusqu'à 26 bébés de 12 à 18 mois dans un appartement de 25 mètres carrés en plein centre-ville. La gérante, une ancienne infirmière, recrutait les enfants en dehors de tout cadre légal et ne respectait bien sûr aucune norme en matière de sécurité, d'hygiène ou même de personnel requis. Les salariés de la société Doux, spécialistes de la volaille, verront sans doute un peu plus clair dans une semaine jour pour jour sur leur avenir. Ils sauront, en tout cas précisément, qui seront les repreneurs potentiels de l'entreprise. Le souhait des syndicats reste d'éviter un démantèlement du groupe et de limiter le plus possible les pertes d'emplois. Doux compte aujourd'hui 3400 salariés. Les syndicats rencontrent à nouveau la direction le 13 juillet prochain et le tribunal de commerce doit rendre sa décision le 16 juillet. Pour protéger les colonies d'abeilles, c'est cette fois définitif. Le pesticide Cruiser utilisé pour le colza est désormais interdit en France. C'est une annonce tout à l'heure du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. L'Agence sanitaire pour l'alimentation et l'environnement affirme que ce pesticide contribue à la disparition des abeilles. Enfin, il s'agit du premier site palestinien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'église de la Nativité de Bethléem en territoire palestinien. Le site désigné comme le lieu de naissance de Jésus. Les Palestiniens demandaient cette inscription pour mettre fin au délabrement et la dégradation de l'église, disent-ils. Les Israéliens y voient là une décision purement Politique, il est 16h03 quand la musique donne. Didier Varro en direct des Eurocaines de Belfort. Didier, bien sûr Didier Varro est là. On a un petit problème de liaison.
Ça y est, je vous entends,
c'est parfait.
Ça va bien Manuel?
Bien et vous? Ça se passe bien aux Eurocaines?
Écoutez, c'est un peu speed, c'est la journée. Ce matin, pas réveillé, mais au micro juste
mais
à
au
7h23.
Micro, à Paris.
Et cet après-midi, grâce à un runner qui s'appelle Vincent, on a réussi à arriver 20 minutes avant le début de cette émission. Donc c'est un peu sportif.
Mais vous êtes parfait.
Mais on est là pour assurer pour la dernière de la saison de Quand la musique donne. On vous retrouve à 17h.
À 17h, bonne émission.
Ciao.
Quand la musique miaule.
Rock, musique électro, techno,
chansons, rap,
la musique d'aujourd'hui en fait, de la musique moderne.
La musique elle est juste là, comment?
En direct des Eurocaennes de Belfort.
C'est une vibration.
Didier Varro.
C'est pas parce qu'il y a Mathias Malzieux qui aime beaucoup les chats qu'il fallait me faire un nouveau générique quand la musique miaule, franchement. Enfin, comment reprendre mes esprits? Le 23, 24 et 25 juin 1989, c'est la première édition des Eurocaennes, avec une programmation répartie sur 4 scènes, jugées plutôt. Scènes dites savoureuses. Catherine Lara, Charlie Couture, Elvis Costello, Jacques Higelin, Morane. Scènes mal aussi. Ange, Les Garçons Bouchers, Nina Hagen et Noir Désir. Scène Yvette, Animal Grotesque, Chihuahua, E127, Énigmatique Légume, Gamine, Jean-Louis Majoun, Les Cyclistes, Les Infidèles, Les Kidnappés de la Pleine Lune, Les Raviolés, ça ne s'invente pas. Scène Salbert, Anna Prucnal, Christian Blondel, Colette Mani, Elmer Footbeat, Fabienne Pralon, Mama Béa, Pascal Mathieu, Ravel Chapuis, Véronique Guin, Zanny Bonny. C'est effectivement une histoire qui remonte à cette année 1989 où la France s'apprêtait à fêter en grande pompe le bicentenaire de la Révolution pendant que les répétitions du défilé imaginé et réalisé par Jean-Paul Goude battent leur plein la nuit sur les Champs-Élysées à Belfort. On voulait apparemment se démarquer des festivités révolutionnaires pour créer l'événement. Même si Christian Proust, président du Conseil Général d'alors, avait, tenez-vous bien, rêvé d'une extension à dimension européenne, avec des concerts simultanés sur les sommets des montagnes d'en face, Forêt Noire en Allemagne, Jura côté Suisse, le tout relié par des faisceaux laser pour sceller l'amitié transfrontalière placée sous le signe du rock. La musique, pourquoi pas, mais les écologistes en 1989... Les écologistes du cru protestent, arguant de la période de reproduction du grand tétras, oiseau nichant sur les versants vosgiens. Les écolos, une fois n'est pas coutume, remportent le combat. Le ballon restera un paradis vert. Le rock'n'roll, lui, est prié d'aller se faire voir ailleurs et la presqu'île du Malsosie devient son lieu de repli. L'avenir dira que ce n'était pas plus mal comme ça, puisque presque 30 ans plus tard, nous sommes là, le camping a bien ouvert ses portes hier après-midi à 17h dans une chaleur caniculaire, prêt à accueillir 30 000 festivaliers. Et idée géniale à souligner, cette année encore, les tipis ont été installés à côté de l'espace camping-car. C'est un bon moyen pour éviter la galère du montage de tentes. Si en 2012 on chante le changement, c'est maintenant. Les Eurocaennes, eux, misent sur une ouverture hexagonale avec ce soir trois générations du rock français. Hubert Félix Thiéphen et Dionysos sont en direct des Eurocaennes cet après-midi, donc quand la musique donne. Mathias Malzieux, bonjour.
Bonjour.
Tu sors de Balance.
On exactement. Ça. Ouais.
Hubert Félix Thiéphen, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. On arrive.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire rapide, en accéléré des Eurocaennes? Vous avez tous les deux un lien particulier à ce festival. Mathias, pour Dionysos, évidemment, il y a eu dans ton histoire une création ici extrêmement importante.
Oui, puis en plus, on avait commencé avec un concert dans le camping, parce qu'à l'époque, il faisait une espèce de off du festival. En 98, on avait joué dans le camping et il s'était passé un truc incroyable. Il y avait eu du retard, on devait déjà jouer à 3h du matin, on a joué à 5. Et finalement, on a joué pendant que le soleil se levait. Donc il y avait à la fois les gens qui sortaient la tête du camping, qui étaient à moitié dans des états assez originaux, on va dire. Et puis en même temps, il y avait les gens qui jouaient le jeu jusqu'au bout. Et on avait demandé aux gens de s'asseoir et de se retourner, de regarder le jour se lever. Et on avait terminé avec un morceau acoustique comme ça. Et c'était un souvenir assez fort, même si c'était qu'un apéritif de Eurocaennes pour nous. Ça a donné le ton pour la suite.
Pour la suite. On peut dire que tu es un enfant des Eurocaennes aussi. Hein.
Bah déjà par...
Un enfant des festivals.
Par rêve interposé, parce que je me souviens d'avoir un peu suivi ça à l'époque avec les Pixies, Nick Cave qui passaient par là et que je rêvais déjà de pouvoir venir jouer ici. Et du coup, là, ce soir, c'est notre quatrième.
Hubert Félix Thiéphen, les Eurocaennes de Belfort.
Oui, j'ai peut-être pas, j'ai pas tous les souvenirs en tête. Je sais qu'une fois, j'ai rencontré le groupe Matmata.
Ouais.
Ils sont venus faire. Enfin, on a terminé, on a fait un peu le bœuf ensemble. Mais j'ai pas tous les souvenirs en tête. J'ai du mal à les mettre en place là. Il y a dû avoir d'autres passages.
Ouais. Est-ce que vous êtes considéré ici un peu comme un régional de l'étape ou pas vraiment?
Ah, je sais pas, je suis plutôt Jura, moi.
Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Mais on a vu que lors de la création, il y avait des tentatives de pont comme ça avec, avec le Jura.
Oui, non, bah, disons que je suis de l'Est.
Voilà, garçon de l'Est. Vous connaissez?
Oui, on s'est croisés, oui.
Jamais. Ouais. Quelques reprises.
Juste croisés. Jamais oui. Vraiment entamé une conversation.
Non. Non.
Alors, rituel de l'émission, c'est une question pour démarrer. Est-ce que Mathias Malzieu, pour Dionysos, aurait une question à Hubert Félix Thiéphen?
Oui, alors j'ai une question qui remonte à loin. C'est, nous, on est venu te voir en concert à Voiron. Ça devait être au tout début du groupe, je pense, il y a une vingtaine d'années.
Presque 20 ans, donc.
Ouais.
La Chartreuse, là-bas.
Mais en tout cas, il s'était passé quelque chose de très particulier. Sur un morceau, il y avait une personne en fauteuil roulant au premier.